Bonjour, nouveau format flash sur ce sujet que vous avez peut-être vu passer, qui est l'abandon des scénarios climatiques les plus extrêmes par le GIEC, ce qui est une actualité qui paraît importante, qui est due notamment au fait que le progrès technique est pris en compte par les études. Hein. C'est pas juste parce que c'était complètement faux de ce que j'ai compris, mais parce que comme il y a eu des politiques qui ont été conduites sur la réduction des gaz à effet de serre, ce qu'on appelle la décarbonation, et bien désormais les pires scénarios sont écartés. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que en réalité, et d'une certaine manière, ils n'ont jamais été véritablement plausibles dans la mesure où on savait qu'il y avait d'ores et déjà des progrès techniques, qu'il y avait des solutions techniques qui ont été envisagées très rapidement dès qu'on a commencé à parler de réchauffement climatique. Et donc aujourd'hui, c'est abandonné parce que les résultats tendent à montrer que ça ne montera pas à ces niveaux-là. Mais la réalité, c'est que c'était quelque chose qui était mentionné depuis un moment par les gens qui étaient trop souvent qualifiés de climato-sceptiques. J'ai relayé sur Twitter ce schéma dont je me souviens qui était souvent relayé depuis une quinzaine d'années, enfin depuis une dizaine d'années, parce qu'il a une dizaine d'années. Qui montrait deux choses. D'une, que comme vous le voyez sur ce schéma, que les différentes prédictions des différents modèles, il y en avait à peu près 200 au total, étaient en réalité d'une amplitude extrêmement importante, puisqu'on allait de un réchauffement de 0,5 degrés à plus 2,5 degrés Celsius, ce qui est mentionné sur ce schéma, alors qu'en réalité, c'était les données qui étaient observées sur la période, en tout cas sur les premières années à partir du moment où les modèles avaient été mentionnés, eh bien montraient un réchauffement qui était plutôt de l'ordre de ce qui était prévu par les modèles les plus optimistes. Et le fait est que là, ce qui est écarté désormais, auquel le GIEC renonce, c'est ce que vous voyez, le RCP 8.5, qui est en fait toute la partie rouge. Et vous voyez qu'en fait, donc tout le gros tiers supérieur des projections vont être totalement abandonnés. Donc clairement, ça rend les projections beaucoup plus optimistes. Et ça suggère notamment, alors encore une fois, pas qu'il fallait absolument rien faire, mais que il y a un effet très important des politiques et surtout des solutions d'abord techniques avant les politiques privatives et punitives. Et c'est important pour moi parce que ça arrive à un moment d'ores et déjà où, c'est pour ça que je dis ça, c'est un clou dans le cercueil de l'écologisme, parce que on le voit, l'écologisme est en train de céder le pas. C'est quelque chose que j'ai déjà mentionné dans d'autres émissions, politiquement. Depuis le 7 octobre, on va dire, 2023, clairement, on a basculé dans la gauche qui était principalement écologiste vers une gauche qui est principalement décoloniale. Une chose que j'avais annoncée dans le bouquin sur le clivage et encore avant, c'est-à-dire l'idée que, de toute façon, la nouvelle gauche, ça serait une gauche qui peut s'appuyer sur une véritable classe d'exclus qui a un intérêt particulier. Et cette gauche, c'est essentiellement la population immigrée ou d'origine immigrée en France. Et l'écologisme, quant à lui, c'était en réalité l'idéologie clé en main des petits bourgeois urbains blancs. Ça l'est encore, puisqu'il y a encore une partie, j'en ai déjà parlé récemment, de l'électorat, notamment de Jean-Luc Mélenchon, qui est blanc. D'ailleurs, si vous regardez les photos du bureau politique qui a dénommé Mélenchon de LFI, qui a nommé Mélenchon candidat pour la prochaine élection présidentielle, vous avez pratiquement que des blancs. Je crois qu'il y a un noir dans l'assistance sur 50 personnes. Donc c'est très très largement blanc et pour beaucoup donc du petit bourgeois blanc et notamment relativement jeune. Il y a des boomers mais relativement jeunes. Et pourquoi c'est l'idéologie clé en main de cette population-là, parce que d'abord, chose que j'ai déjà maintes fois expliquée, l'écologisme, ça célèbre comme comportement vertueux ce qui est déjà le mode de vie effectif de cette population, c'est-à-dire on va faire ses courses à Biocoop, dans les centres-villes, on va bosser en vélo, ça veut dire qu'on habite dans un centre urbain et que son travail n'est pas loin, donc on n'a pas besoin de la voiture, donc on va bosser en vélo, donc c'est décarboné. Donc ça, c'est pour l'aspect purement, on va dire, socio-économique. Il y a aussi l'aspect culturel. l'écologisme, c'était une idéologie qui était centrée sur l'affirmation un peu scientifique, en disant nous, on suit la science, regardez ce que dit la science nous donne raison. Donc c'était idéal en fait pour des gens qui ont des diplômes et du capital culturel, et souvent plus de capital culturel que de capital tout court, que souvent ils n'ont pas. Et donc ils pouvaient s'appuyer sur cette connaissance-là pour prétendre dicter les règles, c'était de là qu'ils tiraient leur légitimité. Parce qu'en fait, cet écologisme, et surtout dans ses versions les plus catastrophistes, comme on les voit dans ces anciens modèles qui ont été abandonnés aujourd'hui, c'est que pour cette classe de population-là, en plus, donc, ça annonçait un danger imminent. Et ce danger imminent, à la fois, il pouvait être imputé à la génération précédente, qui avait développé l'industrie, etc. Donc ça permettait de les rendre responsables de ce danger imminent, et en plus de les désigner comme étant impuissants à les affronter. Et donc la conséquence politique, c'était quoi? La conséquence logique, c'est dire, bah, du coup, vous devez nous laisser vos places. Et donc, ça devait être remplacé par ceux qui savent, c'est-à-dire les jeunes bourgeois urbains blancs. Et donc, on est sur une idéologie de gauche typique qui donne aux candidats qui veulent des places, une légitimité morale à virer ceux qui tiennent les places pour les remplacer, pour venir à leur place, tout simplement. Et donc, l'écologisme, ça servait à ça. Et le catastrophisme servait le récit politique. Il servait le récit politique parce qu'il fallait pas de solution technique. S'il pouvait y avoir une solution technique, il n'y avait pas besoin de virer les dirigeants. Il suffisait que les dirigeants décident d'encourager les solutions techniques. Or, au contraire, les solutions techniques étaient dangereuses pour les revendications politiques de cette population-là, parce que s'il y avait une solution technique, eh ben, eux, ils avaient plus aucune raison de demander les places. Il suffisait qu'ils promeuvent des solutions techniques. Donc, c'était contraire à leur but caché, qui était de prendre les places, tout simplement. D'où le tant à propos du nucléaire que, par exemple, des mégabassines. L'idée que non, parce que c'est une solution technique qui perpétuerait l'ordre capitaliste. C'est quelque chose que vous avez déjà entendu dans la voix d'un certain nombre de personnalités de gauche, notamment écolo, parce qu'en fait le but c'était de lutter contre le système capitaliste. En réalité, c'est le système en place pour prendre les places et pas d'aller chercher une solution technique. Or, ce qu'on voit et ce qui apparaît désormais avec l'abandon donc de ces scénarios pires par le GIEC, c'est que les solutions techniques fonctionnent, en tout cas, elles fonctionnent dans une certaine mesure, dans une mesure qui est importante. Ça permet d'évacuer les scénarios les plus catastrophiques, ça permet d'accréditer l'idée qu'il y a des solutions techniques, et par conséquent, ça affaiblit fortement le discours politique catastrophiste. Et en plus, entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que la gauche, elle a glissé vers les immigrés, parce qu'on est depuis 10-15 ans là maintenant, hein. La gauche a progressivement glissé vers les immigrés avec l'arrivée de toute la génération Rima Hassan, le porte-parole Assez Fini, etc. Et l'écologisme, il ne sert pas cette population-là. Hein, si vous regardez les critères que je viens de vous énoncer, qui servent les petits bourgeois blancs urbains, ça ne sert pas ces populations-là. Ce qui les sert, ça ne les sert en tout cas pas aussi bien que le décolonialisme. Le décolonialisme, là, ça leur permet en plus d'écarter la concurrence des petits bourgeois blancs urbains à ces nouvelles places. Et donc, en refusant le porte-parole-là, d'aller directement vers les places sans avoir passé par d'abord une espèce de soumission à ces petits bourgeois blancs urbains. Donc, vous avez ce phénomène, à la fois le phénomène technique, scientifique, qui accrédite les solutions techniques et qui écarte les solutions les plus catastrophistes. Et en même temps, vous avez ce mouvement dans l'électorat de la gauche qui fait que vous avez un électorat de gauche, celui qui est de plus en plus hégémoniste, c'est le décolonialisme et c'est plus du tout l'écologisme qui devient une préoccupation de second rang. Donc on a ces chiffres qui apparaissent, qui achèvent la panique. Qu'est-ce que ça annonce selon moi? Ben, d'une part, ce qui était déjà prévu, c'est-à-dire que dans le clivage politique, l'écologisme deviendra de moins en moins un sujet porteur, à mesure que notamment la gauche des petits blancs va perdre en force. Et d'autre part, ils essaieront peut-être de jouer toujours le truc en disant que c'est commun avec le décolonialisme, mais l'intersectionnalité des luttes, à la fin, c'est le décolonialisme qui gagne, très clairement. Comme jadis, le communisme a écrasé l'anarchisme. Et donc, ce qui se passe selon moi, c'est que tout simplement, l'écologisme va devenir ce qu'il aurait dû toujours être, c'est-à-dire un sujet technique. Il aurait toujours dû être traité rationnellement, parce que l'écologie, ça doit être traité en soi comme sujet, c'est un sujet sérieux. Donc il faut faire attention à l'environnement, il faut faire attention aux produits qu'on déverse, il faut faire attention, même avec le CO2 qui n'est pas un polluant, de ne pas perturber trop fortement et trop rapidement l'écosystème dans lequel l'humanité s'est développée. Donc effectivement, qu'il y a des choses à faire. Mais tout ce combat-là était pollué par cette ambition politique qui avait intérêt à un catastrophisme et à tout un tas de mesures punitives qui n'avaient en fait rien à voir avec l'écologie en soi, mais qui avaient tout à voir avec le fait de vouloir prendre les places et de vouloir faire des mesures de changement, de transfert, de redistribution sociale d'argent et de pouvoir. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'écologie, en réalité, ce qui est en train de se passer. Il y a des solutions techniques, elles fonctionnent, et on va enfin pouvoir commencer à traiter ce sujet. On a déjà commencé à le traiter, la preuve, les décisions rationnelles ont été prises, mais on pourra désormais écarter les mesures panicardes qui ne servaient que des buts politiques. On va pouvoir traiter ça rationnellement, comme on a traité au début du XXe siècle, avec des solutions techniques, le problème de la pénurie des engrais, des produits azotés, avec des innovations techniques comme le procédé d'Haber-Bosch, par exemple, dont je vous avais parlé ce tantôt. N'hésitez pas à partager ce format flash, abonnez-vous, mettez un pouce, sonnez la cloche et surtout, surtout, ne vous laissez pas faire.